bonjour pour ce 24e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone le 10 avril dernier Anthony Ménien, référent national réseau LAN One pour la DIC Voyage Group SNCF. Vous êtes informaticien à la SNCF. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous faites concrètement ?
Alors, c'est pas simple. Je vais essayer de le faire en résumé pour que ce soit compréhensible. Alors, moi, je travaille donc sur le réseau informatique de vente, le réseau de distribution. Je m'occupe du déploiement de toutes les nouvelles machines. Donc, ça peut être des bornes tactiles, ça peut être des techniques de gestion de fil qui sont connectées sur le réseau informatique. Ça peut être des portiques d'embarquement. Et en fait, il y a régulièrement de nouveaux matériels qui arrivent. Et en fait, on fait évoluer le réseau informatique pour connecter ces matériels. On les fait évoluer parce que la sécurité exige qu'on puisse rendre étanche en fait ces différents réseaux, ces différentes machines les unes des autres. Comme en fait, on va dire que c'est un réseau, un système d'information qui doit être hyper sécurisé parce qu'en fait, il y a des données personnelles qui peuvent transiter sur ce réseau et puis il y a des données bancaires. Donc en fait, il faut être particulièrement vigilant. Et donc ça, moi, je le fais depuis Nantes, en relation avec des équipes techniques locales qui nous aident concrètement à brancher les câbles, voilà, et puis en accord aussi avec des architectes réseau, avec des gens de la sécurité, avec différentes équipes, en fait. Donc le panel est très, très large. C'est ça qui est intéressant et assez riche, parce qu'en fait, on touche beaucoup de personnes, et puis c'est très, très varié. Donc voilà, on s'adapte. Voilà, concrètement, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Il y a aussi les opérateurs qui nous donnent du réseau. Et donc voilà, on essaye de faire fonctionner tout ça pour que derrière, les clients puissent acheter leur billet et puissent voyager après dans de bonnes conditions.
Pouvez-vous me décrire votre environnement habituel de travail ?
On est quasiment en open space, c'est un très grand bureau et dans ce bureau, on est 8 personnes, donc avec pas mal de passages, donc un bureau complètement ouvert. Moi, j'ai la chance de travailler dans le centre, c'est avenue Carnot, donc un bâtiment relativement moderne et plutôt lumineux, donc les conditions de travail sont assez sympas. Après, c'est assez compliqué sur l'attention, parce qu'en fait, on est hyper sollicité par l'humain, en fait, il y a beaucoup de passages, mais également par tous nos outils numériques qui commencent à être particulièrement polluants et compliqués pour la concentration, je trouve, puisqu'on a plein d'outils de chat en ligne, de messagerie, des suivis de projets, on a en permanence des notifications qui arrivent un peu de partout. Et c'est vraiment un exercice que de réussir à ne pas se laisser happer par ces notifications qui arrivent partout et de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire pour avancer efficacement.
Il y a du mouvement et de l'agitation.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a souvent maintenant les outils numériques le permettent, c'est-à-dire qu'on peut faire des réunions casquées avec tous les outils que les gens connaissent bien dans ces périodes de confinement, de visioconférence. Et donc, on a parfois 4 ou 5 réunions dans le même bureau au même moment. Donc ça demande un peu de savoir-vivre aussi pour gérer un peu son volume sonore. Et voilà, avant j'étais plus sur le terrain, donc là c'est vraiment aussi une autre gestion de la chose.
Et des réunions en salle, au calme ?
Des réunions en salle, on en fait quelques-unes, mais malheureusement on manque un peu d'espace pour se réunir. Et donc du coup elles sont souvent prises d'assaut, ces salles. Donc voilà, ça demande aussi un peu d'anticipation. Moi je fais beaucoup de réunions, mais pour la plupart, en fait, mes collaborateurs sont un peu partout, en France, voire à l'étranger. Et donc, du coup, on fait beaucoup de réunions quand même en audioconf.
Actuellement, vous avez un équipement particulier chez vous ?
Au niveau du boulot, en fait, il y a une incitation assez importante pour le télétravail, ce que je trouve bien aussi, parce que ça permet quand même de gagner aussi du temps sur les trajets. Et pour ma part, je fais une journée de télétravail, qui est une journée qui permet aussi de se retrouver à la maison plus au calme. Et je parlais tout à l'heure aussi de pollution avec les gens qui passent. C'est à la fois enrichissant, mais c'est à la fois compliqué. Donc moi, j'ai trouvé un équilibre en télétravaillant une journée, si bien que aujourd'hui, moi, j'étais prêt pour cette période si particulière de confinement. Tous mes outils sont déjà réglés pour travailler depuis la maison. En fait.
Il faut un bon ordinateur, une bonne caméra associée.
Il faut du matériel récent, mais aujourd'hui, on a quand même, avec les nouvelles technologies, plein de matériel. Moi, il y a une gamme qui permet de travailler, de faire avec une bonne connexion Internet. On travaille très bien depuis chez soi, hein. Il n'y a pas de difficulté.
Le fait de ne pas au moins une fois par semaine vous rendre sur votre lieu de travail, ça vous manque ou pas? Là, je renverse la question.
Oui, ça, effectivement, ça manque un petit peu. Les contacts humains sont quand même particulièrement enrichissants et apportent vraiment quelque chose parce qu'on a quand même. Donc à la fois c'est polluant, mais à la fois on a les oreilles qui sont dressées et on entend parler les collègues et on apprend à travers leurs conversations. Ça permet de rebondir et d'avoir des interactions. Et puis au-delà de ça, notre cerveau est quand même un peu drogué aux stimulations. Donc lorsqu'on en a moins, disons que ça peut manquer. Je me souviens lorsqu'on était nous à Paris, qu'on est arrivé dans une petite ville de campagne, en fait, il y a eu un temps d'adaptation où on sentait que le cerveau attendait toutes ces sollicitations. Ouais, quand on se baladait dans Paris, c'est en permanence des couleurs, des gens, des bâtiments, de l'architecture, des voitures, des vélos qui passent partout, dans le métro, les odeurs, etc. Enfin, on était en permanence comme ça sollicité. Et le fait de se retrouver, alors c'est apaisant, on va dire, de se retrouver plus au calme en campagne, mais en fait, le cerveau, j'ai l'impression qu'il réclame un petit peu dans un premier temps des sollicitations. Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'on a reprogrammé notre cerveau, eh bien, lorsqu'on retourne, en fait, à Paris ou dans des environnements avec beaucoup plus d'agitation, ben, en fait, c'est le contraire qui se produit, c'est que ça devient presque douloureux. Alors c'est assez rigolo, en fait. Et là, il se produit un peu la même chose en termes de reprogrammation. Donc on verra lorsqu'on retournera au travail si le même phénomène se produit et qu'on a besoin de plus de calme, on verra.
C'est pas à Nantes que vous appelez un petit village de campagne?
Je faisais référence à la transition qu'on a pu avoir lorsqu'on était à Paris, puis après en Touraine, où pour le coup là on était dans un petit village entouré de vignes et une maison avec 2000 mètres carrés de terrain, et là pour le coup c'était particulièrement calme. Mais là on est plutôt en banlieue nantaise.
Au fond, vous généralisez une pratique que vous aviez hebdomadairement. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ?
Sur le travail en lui-même, sur les gestes techniques et la réflexion au quotidien, non, il n'y a pas grand-chose. Parce que moi, de toute façon, je travaille dans une position assise. Je n'interviens pas physiquement sur les équipements. Je le fais à travers le réseau, à travers la petite fenêtre de mon ordinateur. Donc en fait, ça ne change pas fondamentalement des choses. Après, sur les gestes techniques, je parle. Après, là où ça change les choses, c'est que le contexte aujourd'hui de confinement fait que les trains ne circulent plus. Je crois que tout le monde l'aura remarqué. Et que toutes les nouvelles mises en production sont gelées. Donc en fait, aujourd'hui, on a complètement stoppé nos déploiements. Et là, aujourd'hui, moi, je me concentre plus sur de l'après, donc sur des réflexions sur les futurs déploiements et de la préparation de tous ces dossiers-là. Mais il y a toute une partie du travail que je ne fais plus. Ça change un peu la nature de mon travail pour le moment. Il va y avoir un impact économique important aussi pour pas mal d'entreprises, également la nôtre. Et donc en fait, comme l'activité, il y a une baisse de l'activité, en fait, la SNCF a pris le parti de geler les contrats de nos prestataires, en fait. Et donc du coup, on se retrouve avec un effectif complètement réduit, en fait. On était 6 dans notre équipe et nous sommes plutôt 3.
Donc c'est des sous-traitants.
Voilà. Ils ont mis en pause leur contrat pour le moment. Donc on espère qu'on va pouvoir à nouveau travailler avec eux à la reprise, mais on va lancer probablement un gros plan d'économie aussi. Donc là, on avait plein de projets qui étaient en cours, plein d'idées pour faire évoluer notre système d'information, et on nous a déjà demandé de réfléchir, pour faire des choix en fait. Et il y aura des coupes budgétaires importantes, ça va se traduire par l'arrêt de certains projets.
Donc ça aura une incidence?
Voilà, sur la modernisation du système d'information, ça pourra avoir une vraie incidence. Ouais.
Comment ça se passait avant? Vous pouviez gérer vos heures de prise de poste, de fin de poste, ou alors il était recommandé d'arriver à une heure précise et à repartir à une autre?
On est assez libre en fait dans nos façons de fonctionner, de par notre statut où on a un forfait jour, donc c'est plutôt en fonction de la quantité de travail, en essayant quand même de se déconnecter, parce qu'en fait on a aussi la possibilité d'avoir maintenant nos mails aussi sur nos smartphones. Et donc on essaye aussi de se déconnecter pour le week-end, de plus être aussi dans ce travail-là. Donc aussi c'est un exercice important à faire. Certains de mes collègues n'y arrivent pas. J'ai des mails qui partent très tard le soir ou des choses qui sont traitées le week-end. Pour ma part, moi j'essaye vraiment de me déconnecter lorsque je suis à la maison. Et après, la gestion du temps, c'est en fonction des priorités. Parfois on a des incidents qu'on doit traiter, ça demande plus de présence et on rallonge un petit peu la journée. Et, c'est une organisation. Et après, après chacun voilà, priorise ses projets et essaye de gérer son temps.
Et aujourd'hui, en temps de confinement, on peut être happé par d'autres tâches, vous arrivez à gérer votre temps de travail, à vous imposer des règles?
Tout à fait. Ce que je disais, c'est que c'est assez rigolo. En fait, on a eu des mails de la communication qui tous les jours nous envoyaient des petites coms pour bien télétravailler. Au début, on trouve ça un petit peu pas forcément très très intéressant. Et puis finalement, les idées ont fait leur chemin. Parmi les recommandations, bah, c'était de ne pas rester forcément en survêt toute la journée, mais plutôt de prendre le temps comme une journée de travail, de se préparer, tour dans la salle de bain, s'habiller. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que ça marque aussi le temps. Un autre point, moi j'avais commencé à travailler, ce qu'on gère aussi avec les enfants. Lorsqu'il dormait un peu plus, moi je me levais plus tôt, je commençais à travailler en bas, dans le salon. Et en fait, un des préceptes, c'est aussi d'essayer de s'aménager un lieu qui va être un lieu de travail, qui ne soit pas un lieu de vie. Donc moi je me suis aménagé un bureau dans un endroit sur la mezzanine qui est mon bureau et qui est clairement identifié comme mon lieu de travail. Ce qui me permet, lorsque je ne suis plus dans ce lieu de travail, de ne plus me sentir au travail et de me sentir dans ma vie familiale et dans ma vie de loisirs et complètement déconnecté, quoi. Donc ça fait partie des petites choses comme ça qui sont importantes pour marquer cette frontière et différencier la partie travail de la partie vie de famille.
On peut faire costume chausson.
Ouais, c'est ça. On peut être particulièrement bien coiffé, etc., avec le costume pour la partie haute et puis laisser une partie basse en caleçon ou autre. Hein, ça peut fonctionner sur les visios.
La motivation est importante parce qu'on est vite happé par la vie domestique.
On peut vite. Alors là, en plus, c'est une période où les enfants sont comme nous, doivent faire l'école à la maison. Nous, on a la chance qu'Emilie, malheureusement, ne puisse pas télétravailler à la maison. Emilie est en ma compagne et donc elle peut s'occuper des enfants. Et je vous assure que c'est vraiment un boulot à plein temps. Donc les premiers jours, elle travaillait quand même. Donc moi, je voyais mes enfants qui en permanence venaient me solliciter parce que ils avaient besoin de conseils, on n'avait pas bien compris leurs consignes, on n'arrivait pas à se connecter, et là c'était pas simple. On a deux enfants, Nora qui est au collège, et Léon, son jeune frère, qui lui est en CE1.
Votre logement.
On n'a pas une maison immense, mais on a une maison qui doit faire à peu près 120 mètres carrés. Ça donne quand même quelques espaces. Et puis on a la chance d'être en maison avec un petit terrain qui doit faire environ 500 mètres carrés. C'est vrai que sur ces périodes de confinement, c'est quand même un luxe.
Comment pourrait-on qualifier l'ambiance générale de votre environnement à la maison?
On a une famille où ça discute beaucoup. Donc j'ai des enfants qui sont très très vivants. C'est très très chouette. Mais par contre, on a quand même un niveau sonore qui est quand même assez élevé. Les temps morts, il y en a assez peu. On essaye de leur demander de se calmer un petit peu sur le volume sonore et sur le débit de parole, mais ça envoie pas mal. Donc globalement, les enfants sont quand même contents de vivre ce moment avec leurs parents. Je crois qu'ils ont conscience aussi qu'on est disponible et qu'on vit quelque chose de particulier, d'assez fort au niveau de la cellule familiale. Pour eux, je sens quand même pas mal de joie. Alors évidemment, hein, comme tout le monde, hein, il y a des hauts, il y a des bas, et on est tous parfois un peu de moins bonne humeur, de moins bonne composition. On n'a parfois pas envie de faire les devoirs ou moins de motivation pour le travail. Donc voilà, ça se traduit par des petites mises au point, par des petites colères. Mais globalement, je dirais que la tendance générale, s'il y avait une météo, ce serait quand même plutôt, comme à l'extérieur, plutôt ensoleillé, on va dire, à la maison.
Avoir ses enfants 24 heures sur 24, c'est plutôt énergivore. Vous confirmez?
Oui, c'est très énergivore, mais nous on a une configuration de vie qui fait qu'aujourd'hui, Émilie ne travaillant plus, étant arrêtée, en fait, elle s'occupe des enfants, mais effectivement, c'est hyper hyper énergivore et hyper chronophage. Donc elle est arrêtée, mais je pense que en termes d'attention, d'énergie, de temps passé, en fait, elle est probablement aussi fatiguée que je peux l'être, voire plus, parce qu'en fait, elle est hyper sollicitée, à la fois pour la maison et pour les enfants dans ce suivi. Donc c'est vraiment un travail à temps plein. Ouais. Par contre, je confirme cet aspect-là. Encore une fois, nous, on a beaucoup de chance, ça nous permet d'avoir un équilibre qui est plutôt bon, de par la disponibilité des midis.
Ça a un impact sur votre travail, tant au niveau de l'amplitude, peut-être aussi du temps pour réaliser une tâche habituelle, peut-être sur la qualité même du travail fourni.
Ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'il y a la vie qui se déroule à côté de nous. Donc en fait, en termes de volume sonore, ça peut être un peu perturbant et ça peut jouer sur la concentration. Et puis les sollicitations aussi des enfants qui peuvent intervenir à tout moment, ce qui n'est pas toujours évident à gérer lorsqu'on est en réunion ou au téléphone ou en train de rédiger des mails ou de traiter des dossiers, d'avoir comme ça. Mais bon, je disais en début de conversation, là, en début d'interview, c'est aussi mon quotidien d'avoir des gens qui passent dans le bureau et de Donc finalement, l'un dans l'autre, pour moi, ça ne change pas grand-chose, je dirais.
Ça peut générer aussi des situations cocasses.
On entend parfois les enfants demander le bol de Chocapic pendant pleine réunion, donc parfois c'est assez rigolo, ça fait marrer tout le monde, mais tout le monde est conscient que c'est quelque chose qui nous a imposé, donc c'est plutôt le regard de tous mes collègues, il est toujours bienveillant en fait. On s'en amuse plutôt de la situation que le contraire.
Au niveau relationnel, côté professionnel et côté domestique, quelles conséquences a cette vie en confinement?
Au niveau professionnel, on sent que les gens ont quand même pas mal besoin de partager leurs expériences. On a mis en place un point tous les matins. Il y a des rituels comme ça dans les équipes où les gens prennent un café le matin et puis parlent de tout sauf du boulot pour justement se connecter les uns aux autres et puis pas forcément être dans des relations qui ne sont que professionnelles. Et ben nous, on a mis en place ce petit point aussi à travers une réunion. Donc tous les matins à 8h45, il y a un petit bonjour. Donc on peut échanger sur l'actualité RH, mais parler aussi de notre quotidien, comment on gère les choses dans notre vie de famille, comment on se sent, quelle est la météo familiale, comment les gens vivent ce confinement. Et donc ça permet de se sentir, d'avoir un lien à travers ce confinement qu'on n'a plus géographiquement ou en tout cas physiquement. C'est marrant ce que je décrivais tout à l'heure sur ces problèmes d'outils numériques qui à la fois sont des outils qui sont hyper puissants mais qui peuvent être aussi hyper chronophages. On discutait avec une collègue qui, elle, faisait confiance à sa fille qui, elle aussi, était en sixième et elle passait beaucoup de temps sur son PC, puis elle pensait qu'elle était très autonome et qu'elle avançait bien parce que c'est dans sa nature aussi de plutôt être comme ça, plutôt bonne élève. Et en fait, elle a mis le nez dans les devoirs à la fin de la semaine, parce que étant en télétravail, elle avait des difficultés pour le faire au quotidien. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait fait qu'un quart de ce qu'elle devait produire en termes de devoirs, parce qu'elle était complètement happée par tous ces chats avec ses copines liées à ces plateformes numériques, en fait. Et peut-être qu'elle avait aussi du mal. Donc, en fait, c'est là aussi où on voit les limites de l'école à distance. Et j'espère qu'on ne va pas aller vers ça parce qu'on a la chance d'avoir un service public et puis d'avoir de l'école qui est à la fois obligatoire et la même pour tout le monde, l'école publique, ce que je trouve formidable. Et j'espère que ça ne va pas donner des idées de privatisation d'école et que ça ne va pas servir de test en se disant bah, ça fonctionne et les enfants peuvent être autonomes et les parents peuvent peut-être prendre le rôle. Je ne sais pas, c'est une réflexion qui me vient là, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à préserver. Moi, en temps de confinement, je vois à quel point le service public est important et il faut absolument le maintenir. On le voit à travers la poste, l'éducation nationale, les hôpitaux. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes, quoi.
Cette conscience que vous avez sur la nécessité d'avoir un bon service public, vous l'aviez avant. Donc, c'est pas la période de confinement qui...
Non, 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 non. Mais c'est assez rigolo parce que cette période de confinement, j'ai l'impression qu'elle fait réfléchir quand même pas mal de monde. Et en fait, en vieillissant, on s'endort peut-être un petit peu parfois. Et puis, on est un peu happé par le rythme de la vie qui nous font peut-être oublier des fois certaines réflexions. Et puis, et peut-être l'idée aussi de revendiquer certains droits qu'on pourrait avoir, d'être aussi un contrepoids face à quelque chose qui va comme ça très très vite. Non, je pense que ça suscite pas mal de réflexions sur le rapport au temps déjà. Dans nos vies où tout va très très vite, là, je pense que beaucoup de gens, on l'entend beaucoup, hein, des gens qui se disent qu'ils en profitent pour peut-être faire. Moi, j'ai entamé un peu de méditation. Alors c'est rigolo, c'est un petit temps où justement j'essaye d'être simplement là, à ce moment-là, et simplement ressentir déjà ce temps, passer du temps avec mes enfants pour jouer un petit peu avec eux. On a du temps pour ça. On peut se remettre aussi à dessiner ou à se lancer dans une partie de Lego et à construire des choses. Donc c'est des réflexions qui viennent à nous. Et puis on voit aussi plein de gens qui repartagent aussi des choses sur l'écologie, sur la nature. Peut-être que bah, cette crise sanitaire, elle est peut-être aussi liée probablement à la mondialisation, le fait d'avoir détruit pas mal d'écosystèmes et à lier à un bétonnage massif qui fait que ce virus, il a circulé hyper vite et qu'aujourd'hui, on voit à quel point on peut être démuni face à ça. Ça apporte quand même de la réflexion. Après, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ça va changer vraiment les choses? Est-ce que, à l'issue de cette crise, on va repartir, reconsommer à fond la caisse et oublier ce qui s'est passé? Comme en 2008, finalement, ça s'est passé à travers cette crise économique. Ou est-ce qu'on va peut-être prendre plus conscience de notre fragilité et se dire enfin qu'il faut qu'on apprenne de cette crise et qu'on arrive à donner plus de sens et à ralentir et à vivre plus simplement et plus les uns avec les autres? Voilà, c'est une vraie question.
Pour y avoir cette réflexion, quel sens ça a de me donner autant de travail que je n'arrive pas à accomplir dans les délais et le temps qu'on m'accorde, ou en tout cas qu'on me rémunère?
Je suis complètement d'accord avec ça, hein, et on nous presse de plus en plus le citron. Là, on n'arrive plus à travailler correctement, mais on est un peu pris au piège et on a l'impression que marche ou crève, c'est peut-être un peu violent comme expression, mais en tout cas, les choix sont pas évidents et la culture syndicaliste est peut-être de moins en moins présente dans notre société. Et en fait, le contrepoids est de moins en moins présent aussi, donc de fait. Et effectivement, en plus, on se retrouve happé par ça et on n'arrive plus à avoir une vision plus large et on part le matin, on allume le PC et c'est parti, on bosse. Moi, j'en suis à un tel point que je n'accorde même plus de pause au boulot, en fait. Ce qui est quand même assez terrible de bosser 4 heures d'affilée assis sur sa chaise en enchaînant les réunions, les mails et sans même plus faire de pause, en fait. Et de se dire qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait, en plus, à la fin de la journée. Donc, oui, c'est assez particulier. Mais je pense que, quand j'en discute autour de moi, pour finir, simplement, enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont aussi dans ce cas-là. J'entends beaucoup de témoignages de gens qui sont dans ce cas.
Des manifestations pour la défense du service public, des grèves dans les hôpitaux, des démissions de chefs de service, on en a connu. Je ne parle pas du mouvement des Gilets jaunes ou autres. Quel regard vous portiez sur ce type de mouvement assez régulier?
Je suis sympathisant de toutes ces grèves. J'ai participé de façon symbolique à quelques-unes. Je dis symbolique parce que le gouvernement, en fait, est complètement, enfin, n'écoute pas du tout le cri de la rue et des gens. Et s'est imposé des choses pour réformer à tout prix. Et alors, moi, j'ai fait plusieurs journées de grève, mais ça a un vrai impact sur le salaire. Donc, en fait, c'est pas simple quand on a une famille à gérer, des mensualités à rembourser aussi. Et qu'on a l'impression parfois d'être perdant-perdant, où on va manifester, on essaye de se manifester, on va manifester, on se manifeste pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais que derrière, rien ne se passe. Il y a quand même eu, il y a eu, vous le rappeliez, de grosses manifestations pour le service public contre la réforme des retraites, etc. Et derrière, c'était le rouleau compresseur et rien ne s'est passé. Alors on se dit, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il faut casser les choses pour être entendu? C'est assez particulier. Ça me laisse assez triste de voir l'évolution que les choses peuvent prendre. Et ce manque de contrepoids qu'on peut avoir derrière, malgré c'est quand même ces manifestations quand même hyper importantes et régulières que le pays a connues. Peut-être qu'il faut y aller progressivement et que ça viendra. On verra à l'issue de cette crise ce que ça va générer derrière.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une action symbolique de grève.
Je le disais comme ça parce que à travers les grèves, il y a eu plusieurs types d'actions. Dans mon entreprise, en fait, ça se traduit par des gens qui ont directement, en cessant leur travail, eu un impact sur la circulation des trains. C'est-à-dire que très concrètement, un conducteur de train, lorsqu'il cesse son travail, en fait, ça se traduit par un train qui ne roule pas. Je caricature et je schématise, mais alors que moi, en tant qu'informaticien travaillant dans une DSI, lorsque j'arrête de travailler, en fait, il n'y a pas d'impact. En tout cas, l'impact, on ne le voit pas de manière aussi radicale. Au-delà de ça, la population à la DSI, Direction des systèmes d'information, pour la partie voyage à la SNCF, elle est constituée de plus de 50% de prestataires aujourd'hui. Ce qui fait que sur la population de cheminots, si on a 10% de personnes qui font grève, c'est 10% de 50%, avec en plus ce décalage de ne pas avoir un impact immédiat lorsqu'on fait une action de une journée de grève. Tout ça pour dire que c'est à travers ça que j'entends le mot symbolique, parce qu'en fait, pour moi, je vais manifester, mais il n'y aura pas d'impact très concret. Tout sera lissé et le travail continuera de se faire sur les différents projets à travers les cheminots qui ne manifestent pas et les prestataires qui continuent à eux faire avancer les projets.
Vous allez prendre quelques jours de vacances. Ça va changer quoi quand on est confiné à la maison?
On verra, parce que depuis le début du confinement, je travaille. Donc, bah déjà, ça va permettre de couper le réveil le matin, donc de pouvoir dormir un petit peu plus, de pouvoir peut-être me lancer dans des choses. Donc là, j'ai envie de lire des choses plus légères, des très belles bandes dessinées que j'ai envie de lire, mais de me remettre aussi dans la lecture de canards et de romans, peut-être pour me reconnecter aussi à la réalité, à l'actualité, puis peut-être aussi tester d'autres médias. Donc voilà, ça va être peut-être le temps de lire d'autres choses. Je vais aussi en profiter pour dessiner, peut-être peindre, et puis passer aussi du temps avec mes enfants pour partager des choses avec eux.
On a ses enfants 24 heures sur 24. Là, les vacances permettent de partager du temps avec ses enfants.
Ouais. On va essayer de lancer des choses. peut-être du bricolage, peut-être du dessin. J'ai un fils qui aime dessiner, ben on va peut-être le faire ensemble. Et puis voilà, partager des choses, des moments aussi, tout simplement des moments, de discuter, d'être à 100% connecté avec eux et d'avoir du temps devant soi. Donc ça va être un bon moment, de chouettes moments.
Et l'ordinateur et le smartphone sous clé, pour pas avoir la tentation de...
Ouais, alors là, c'est pareil, en fait, ce confinement, je vois que les gens font énormément de visio, je vois des groupes sur des applis de type Signal, qui est l'équivalent de WhatsApp, mais plutôt en logiciel libre. Donc je vois beaucoup de groupes se monter, et en fait des notifications et des gens partagent, ce qui est joli, hein, leur quotidien à travers des photos. Mais alors par contre, c'est catastrophique parce que les notifications sur le smartphone, c'est 20 ou 30 notifications par jour. Et je pense qu'il faut le laisser de côté son smartphone pendant quasiment toute la journée pour le reprendre une fois de temps en temps éventuellement, mais apprendre à utiliser les outils pour se reconnecter un petit peu humainement et pour se reconnecter à peut-être la nature, au temps qui passe et à être bah, simplement dans l'instant présent pour vivre pleinement.
Merci à Anthony Ménien pour sa libre participation à ce 24e numéro de Confinez-vous à nous.
Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement?
Je me suis posé cette question, parce qu'on en a parlé avec des collègues, et en fait j'ai du mal à répondre en fait à cette question. Alors allez, je vais dire l'escalade, parce que je suis un fan d'escalade, et c'est une activité physique qui me fait beaucoup de bien. Et voilà, mes petites sessions d'escalade, je veux dire, c'est ce qui me manque le plus.